Luc chapitre 6, verset 46. Combien je vous encourage à noter les textes. À noter les textes. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissa une maison à creuser profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Au verset 48, vous avez vu, ça ne ressort pas dans le Matthieu 7 plutôt. Jésus dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément. C'est là que se situe le vrai problème. Beaucoup de chrétiens écoutent, ils aiment la parole, ça c'est sûr. La grâce de Dieu leur ayant été accordée, donc ils aiment la parole, ils savent quelle est la vérité, mais ils ne creusent pas. Ils creusent un peu comme certaines personnes pour installer, vous savez, ces chalets en bois là qui creusent 3-4 cm. Mais le problème, c'est que le torrent va venir. Vous le savez, tout va empirer. Vous le savez, après les élections, ça va empirer. Tout va empirer. C'est écrit. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas de Jésus-Christ. Les temps seront de plus en plus difficiles. Et le chrétien, il doit creuser. Vous avez vu? Je vous montrerai. Ce matin, Dieu veut vous montrer ce qu'est un homme intelligent, ce qu'est un homme prudent, ce qu'est un homme qui creuse, et il n'arrête pas, il veut de la profondeur. Beaucoup de chrétiens, mais on le voit, c'est pas la peine de donner des exemples, aux propos, aux bigoteries, c'est-à-dire cette légèreté dans les paroles, ce manque de profondeur, beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Le deuxième don suffisait ce matin à édifier l'Église, à savoir que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Ils écoutent, oui, ils écoutent. Ils écoutent, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils entendent un message qui est à propos et dans notre mouvement. Et en plus, ça c'est bien. Dans notre mouvement, il y a une qualité dans le mouvement des églises, des assemblées de Dieu. Ça c'est vrai. Il y a des défauts, mais il y a une qualité, c'est qu'on est au tip-top sur la doctrine. Vraiment, dans le mouvement des assemblées de Dieu, on a cette qualité, on est carré au niveau de la doctrine. Alors c'est sûr que les chrétiens, développant cette vérité, se targuent de dire, mais nous, dans les assemblées de Dieu, on est à plomb sur la doctrine. Et c'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas devenir des théologiens. Il faut devenir des hommes et des femmes de cœur, des hommes et des femmes qui mettent en pratique. Un homme qui entend et qui met en pratique. Alors vous savez que dernièrement, on a parlé de ce verset dans 1 Pierre au chapitre 3. Pour ceux qui n'étaient pas là, on va quand même lire la conclusion d'une longue exhortation. Nous, on est pénalisé par la construction de la Bible, par les versets, par les chapitres. Mais en vérité, il n'y a qu'une pensée et toute une série d'exhortations dans la première épître de Pierre au chapitre 1, 2 et 3 qui se termine presque avec ce verset 7 du chapitre 3 de 1 Pierre, la fin du verset 7, avec une grande, grande exhortation, une vérité, mais qui devrait nous enthousiasmer. Si je vous disais ce matin, vous prenez un papier. Oh, un papier, non, c'est pas la peine. Je vais vous donner les numéros du loto. Et les complémentaires, je ne sais pas comment ça marche. Je vais vous donner les numéros. Je pense. Peut-être que certaines diront, mais non, je ne veux pas. Je pense que certaines le noteraient. Vous les voulez? Je vais vous le donner. Ça peut, 1, Pierre 3.
7 C. Le 7 C, c'est la troisième phrase du verset 7. Mais c'est vrai en plus. Et je peux vous dire qu'il y a des trésors plus grands que la loterie nationale. Hein. Croyez-moi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. C'est une condition afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mes frères et sœurs, là, il y a les numéros gagnants. Tous les versets qui précèdent, toutes les exhortations qui précèdent devraient nous amener à dire mais je veux qu'il en soit ainsi. Mais au fait, c'est quoi? Alors, la première, on l'avait lue, mais j'y reviens. La première, c'est 1 Pierre 1,13. Après avoir parlé de notre position en Christ, comme c'est le cas chaque fois, et des épreuves liées à cela, il commence par une série d'exhortations. Vous avez vu 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Tiens, que répondriez-vous à un ami à qui vous avez donné la Bible hier et qui tombe sur ce chapitre et qui vous dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai lu un Pierre là, « Saignez les reins de votre entendement. » Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça correspond ? Beaucoup de chrétiens, je suis sûr, ne seraient pas dans la capacité, hélas, de répondre à cette première exhortation, car toutes les autres, c'est évident, vont dépendre de celle-là, de la même manière que le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, ne peut être réalisé que si les autres suivent. Il est clair, comment un homme pourrait-il adorer Dieu s'il convoite la femme de son prochain? Vous comprenez, etc. Donc, saignez les reins de votre entendement. Mais qu'est-ce que ça veut dire saigner, cendre, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient bien serrées, comme une ceinture, vous voyez, qui serre, qui entoure bien les reins. La parole de Dieu, ça doit être quelque chose de sérieux, on creuse profondément. Moi, je vous avoue, je suis extrêmement peiné. La prophétie m'a beaucoup encouragé parce que ça résume ma prédication dans le sens où plein de chrétiens sont comme ces vierges folles. Les gens sont fous. La moitié des chrétiens, c'est une prophétie, sont insensés. Ils y croient sans le croire. L'enlèvement, ouais, c'est un petit peu virtuel. L'enlèvement, ça va arriver, mes frères et sœurs. Et beaucoup de chrétiens seront dans un désarroi pas possible. Personne, les gens y pensent sans y penser. Les gens, ils sont trop accaparés par les choses de la terre. Mais mes frères et sœurs, notre Seigneur, ce Dieu que l'on a célébré au travers de ces merveilleux cantiques nous promet qu'il prendra soin du lendemain. Vous le croyez, ça? Beaucoup de gens ne le croient pas. S'ils le croyaient, je peux vous dire qu'ils ne s'inquiéteraient pas du lendemain. Saigner les reins. Les reins, c'est quoi les reins, en fait? C'est quoi? Ah, il faut saigner. Ah, donc Dieu s'occupe de la kinésithérapie. Non! Les reins, ne riez pas, le symbole des pensées, des sentiments. Il faut que mes pensées, mes sentiments, ce qui est spirituel, bien sûr, je ne parle pas des pensées humaines et des sentiments humains et des émotions. Je parle des paroles de l'Écriture. Saignez les reins de votre entendement. Vous allez comprendre, vous allez bien comprendre avec les exemples que je vais vous donner. Saignez les reins de votre entendement. L'entendement, c'est cette faculté de comprendre. Seigneur, aide-moi à comprendre. Oh, je ne comprends rien quand je lis la Bible, mais demandez-lui. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. J'ouvre mon cœur. Saignez les reins de votre entendement, c'est la première exhortation. Mes frères et sœurs, moi je vous assure, j'ai beaucoup de chagrin. Je ne pense pas qu'aux chrétiens de Sainte-Anne, vous savez, avec tous les entretiens que j'ai, je peux vous dire, hier j'ai eu un pasteur en vrac, qui allait faire une ânerie, heureusement qu'il m'a écouté. Pourquoi ? Parce que les gens sont tellement affolés, perturbés, qu'ils se rendent même pas compte quand ils disent des bêtises ou quand ils font des bêtises. Saignez les reins de votre entendement. Ça ne peut se faire qu'avec la parole de Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et beaucoup de chrétiens, mais ils ne lisent pas la Bible, ou alors ils la lisent pour la lire. Ils la lisent pour se faire croire qu'ils sont spirituels. Je lis ma Bible tous les jours, parce qu'on nous recommande de lire la Bible, alors je lis ma Bible. Mais par exemple, ils ne réfléchissent pas. Creusez profondément. Vous savez, le sermon sur la montagne, je l'ai lu, ça mentir, hein. Ça a exagéré plutôt. Des centaines de fois. C'est cette semaine que je me suis rendu compte que ce mot était répété 2 fois de suite par le Seigneur Jésus. Creusez profondément. Vous voyez, pourtant je le connais par cœur. Et je savais très bien que c'était à la fois pour moi et à la fois pour les chrétiens, qui ne creusent pas. Ils écoutent, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils entendent. Vous voyez, ce matin, tous les cantiques étaient tirés d'un psaume. Vous l'avez fait exprès, Michael. Voilà.
du psaume 34. Dimanche dernier, j'étais dans une église et le pasteur, avant la prédication, comme on le fait ici, a pris un texte. Et avant de, quand je suis monté sur l'estrade, mais je l'ai fait esprit. Je pense que j'étais poussé par le Seigneur. J'ai dit, est-ce que vous vous souvenez quel est le psaume que le pasteur a pris? Tout le monde a fait non. Les gens, ils écoutent, mais ils n'entendent rien. C'était le psaume 34, justement. Les gens, ils écoutent, ils veulent un beau sermon. Oh, c'était bien ce matin. Mais ça ne sert à rien. Si vous venez à Christ, si vous entendez, mais si nous ne mettons pas en pratique, ça ne sert à rien. L'homme qui verra sa maison bousculée, c'est l'homme qui écoute, il entend, il est d'accord, mais il ne met pas en pratique. Alors, comment comprendre? Parce que quand même, il faut... Moi, franchement, je m'interroge grave. Par exemple, combien de chrétiens sont méchants? On peut être méchant en quoi? Parole, en acte, en pensée, etc. J'ai regardé rien que dans le livre des psaumes, je crois que rien que... Il y a au moins 337 versets qui parlent de la méchanceté. C'est énorme quand même. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il tant parlé de méchanceté? Parce que le cœur de l'homme est méchant et on a intérêt à veiller. Il y a des gens, ils sont méchants. Entre eux, moi j'ai vu des chrétiens se parler d'une manière misérable. Moi je me souviens ce jour où ça m'a fait de la peine. C'est un jour, mes fils, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais tu sais Gérard, papa, tu sais papa, les chrétiens quand ils sont avec toi, on a remarqué qu'ils n'étaient pas pareils que quand ils sont sans toi. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pas tous, hein, heureusement. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça m'a fait de la peine. Pourquoi? Moi, j'ai vu des gens qui ont parlé à ma femme d'une manière très désinvolte. Et quand ça s'est présenté, comment vous vous appelez? Isabelle Legault. Oh, 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 vous êtes la femme du pasteur, pardon, de quoi? Vous ne trouvez pas quand même que c'est inquiétant? Je donne cet exemple, mais moi je vous assure, mais ça ne me gêne pas moi ces situations, ça ne me gêne pas. Mais c'est révélateur. Comment j'écoute la parole? Quand je lis un texte, comment je l'écoute? Comment je suis quand je chante ces cantiques? Comment je suis quand je chante « Purifie mon cœur » ? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour moi? Purifie mon cœur, lave-moi complètement. Vous connaissez le psaume 51? Quand David exprime sa profonde repentance, pas un petit regret, là, ouais, c'est vrai, c'est pas bien. Je suis méchant avec ma femme, ouais, mais bon, elle est pénible. Mes frères et sœurs, même si votre femme est difficile, mes frères, si votre femme est difficile, apprenez au travers de ça. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, c'est ce que disait David. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Parce que vous savez, écoutez-moi bien. Vous me regardez prêcher. Mais moi, je peux vous dire que le Saint-Esprit, il regarde votre cœur. Dieu du haut des cieux regarde tous ceux qui le cherchent. Tous ceux qui ont le cœur entier. Et vous pouvez dire, oui, monsieur Gau, ce matin, il est sévère ou pas, j'en sais rien, ça m'est égal. Mais Dieu, il regarde votre cœur et il voit s'il y a quelqu'un qui dit « Mais je veux creuser profondément, je ne veux pas faire partie de ces vierges folles » parce que je vous dis, de toute façon, c'est une prophétie. Et là, c'est imparable, on peut le calculer comme on voudra. Pas forcément dans chaque église, il y a 50% des chrétiens qui sont prêts, mais dans le corps de Christ sur la terre, il y a 50% des chrétiens qui ne sont pas prêts, c'est sûr. Dans quelle catégorie êtes-vous? Est-ce que vous faites partie de ces vierges folles qui prenaient à la légère les choses de Dieu, qui disent « Mais non, on a besoin de rire, on a besoin de rire, le monde va mal, il faut blaguer. » Écoutez-moi, la joie, elle ne vient pas par le rire. La joie, elle vient par l'onction. Vous ne l'avez pas entendu dans le premier vent? Vous croyez que la joie, elle vient par le rire ou que la joie, elle vient par l'onction? Ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais moi, ce que je voudrais ce matin, c'est que nous puissions être sérieux. Pas nous prendre au sérieux et pas nous la jouer. Mais est-ce que je suis sérieux? Est-ce que j'ai compris quand je chante « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur » Il est beau ce chant, on le chante des fois. Mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est du cinéma? Comme Dieu est obligé de dire « Mais ce peuple m'honore de la bouche, des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et quand on écoute la parole de Dieu et qu'on arrive au bout de la rue, on a déjà tout oublié, c'est parce qu'on ne creuse pas. Quelqu'un qui creuse, il va enraciner les choses de Dieu. Et moi, je vous le dis, vous savez, moi, mon ministère, il a changé le jour où Dieu m'a montré, d'un matin, à genoux, dans mon bureau, je crois que c'était ici, à Saint-Agne, au début, que je rendrai compte pour toutes mes prédications. C'est drôle comment ça m'a donné l'envie de, voyez, c'est drôle. Mais mes frères et sœurs, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes sérieux devant un verset? Saignez les reins de votre entendement. Comment je peux faire en sorte que la vérité m'étreigne? Que mon cerveau, mes pensées, mes sentiments spirituels soient envahis de ces choses? On va prendre quelques versets. Vous savez, il y a ce qui rend heureux, vous êtes d'accord? Heureux l'homme qui médite. On va voir quelques versets sur le malheur, parce qu'en fin de compte, qui ne veut pas être heureux? Et pourtant, combien de comportements font l'inverse, produisent l'inverse? Vous savez, j'ai prié parce que vous comprenez bien qu'avec ce verset, on n'a que l'embarras du choix. Pour prendre des versets, qu'est-ce que ça veut dire, ceindre les reins de son entendement? On va en prendre un. Ce sont des versets qui me sont venus à l'esprit en priant. Regardez, Habacuc chapitre 2. Là, je vous encourage à le noter. Parce que peut-être quelqu'un ce matin sera béni à cause de l'acceptation de cette parole. Regardez, il y a des textes. Jésus, Dieu, volontairement a utilisé des mots pour qu'on comprenne mieux. Lorsqu'il parle de malheur, lorsqu'il parle de bonheur, lorsqu'il parle de bénédiction ou de malédiction rattachée à un comportement, c'est archi important, c'est archi utile. Regardez, Habacuc chapitre 2, verset 6, la fin du verset 6. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Alors je ne parle pas de prêt que vous avez pu faire à la banque, vous avez fait un prêt, parce que vous vouliez acheter telle ou telle chose, vous avez fait un prêt, vous le remboursez tous les mois. Je parle des chrétiens qui ont demandé de l'argent à d'autres chrétiens parce qu'ils avaient de l'argent et qui ont dit « Oh mais c'est pas grave, en plus il est plein de pognon, ne riez pas parce que c'est grave ». Oh, mais de toute façon, ce chrétien, il a plein de fric. Pour 1000 euros, on ne va pas faire des histoires. Quand je pourrai. Mes frères et sœurs, malheur à celui qui ne rembourse pas les dettes. Et bon, nous, on l'a vu. Vous savez, je l'ai tellement vu qu'à l'église, quand quelqu'un nous dit, monsieur Gros ou monsieur de Dieu, est-ce que vous ne pourriez pas nous donner, m'avancer 200 euros, je vous les rendrai. Vous savez ce qu'on dit maintenant? Écoutez, ne les rendez pas, gardez-les. Parce qu'on ne veut pas faire mentir les gens qui nous promettent qu'ils vont nous les rembourser. Mais je ne veux pas juger personne. Croyez-moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Ah mais il a du fric, lui, vous savez. Il n'est pas 500 euros près. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. La personne qui ne rembourse pas ses dettes désobéit à Dieu. Ce n'est pas parce qu'un chrétien a de l'argent, parce que qu'il l'ait gagné, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi on rembourserait à la banque? Parce qu'on a peur d'avoir un problème. Hein. Mais mes frères et sœurs, vous comprenez ce que ça veut dire? Saigner les reins de votre entendement. Alors vous allez me dire, oui, moi je ne lis pas tous les jours le prophète Habacuc. Mais quand même, vous ne croyez pas que le Saint-Esprit conduit les pas de ses enfants? Vous croyez que le Saint-Esprit peut nous conduire dans une lecture lorsque l'on prie, Seigneur, conduis-moi? Bien sûr, si vous, tous les matins, vous ouvrez la Bible, Seigneur, parle-moi! Pas ça, Seigneur. Seigneur, ouais, moi ça me fait pas rire. Hein, parce qu'il y a plein de chrétiens qui le font. Et ça, je peux vous dire que c'est pas sérieux, ça. Mes frères et sœurs, vous vous étonnez que des chrétiens ne soient pas prêts?
Il faut lire la Bible, vous commencez à la Genèse, vous mettez un petit signet, le lendemain vous recommencez, vous lisez 5 versets, 5 chapitres, un jour vous avez du temps, un jour vous avez moins de temps, on le sait tout ça. Mais Seigneur, je lis, tiens, je vais lire le prophète Habacuc. Le salut, c'est sérieux. Vous croyez que le salut, c'est sérieux? Si Jésus revenait là, maintenant, ou dans une heure, vous ne croyez pas que certains seraient peut-être amenés à dire, mais c'est vrai, je vais appeler, mais j'ai honte, monsieur Gaud, je ne vais pas l'appeler, je lui dois 2000 euros, je ne l'ai jamais remboursé, je lui ai promis. Eh bien, écrivez-lui, je ne sais pas. Mais commencez, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Eh bien, commencez avec 10 euros, avec 15 euros. Mais franchement, on ne peut pas dire, bon, mais je te dois 500 euros, mais écoutez, j'ai la vérité. J'ai honte de vous le dire, j'ai honte de venir vous voir, je vous dois, eh bien, je vous enverrai 15 euros tous les mois. Mais Dieu va le vous bénir. Saignez les... Écoutez, mes frères et sœurs, moi, je voudrais que l'on soit simple, mais vrai. On n'a pas besoin de prédication à 3 étages comme ce chrétien qui est sorti d'une église ou un pasteur que je connaissais bien a prêché. Il a dit en sortant, oh, « Mais c'était bien. J'ai rien compris, mais c'était bien. » Et c'est vrai, ça. Saignez les rênes de votre entendement. C'est le premier conseil. Comment je vais pouvoir comprendre la suite? Soyez sobre, ayez une entière espérance. Comment je vais comprendre, ayez une entière espérance? On l'a vu mardi, ça. Comment je vais pouvoir chercher à être rempli du Saint-Esprit pour avoir cette espérance qui fera que je ferai du bien aux autres? Il y a des chrétiens, il y a des gens qui disent, moi je les fuis. Et ils ont raison, en plus, parce que c'est pas la peine de s'entendre des trucs négatifs pendant une demi-heure. Saignez les rênes de votre entendement. Malheur, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Vous avez une dette, remboursez-la. Même si c'est 10 euros par mois, mais remboursez-la. On vous a donné de l'argent à l'église, gardez-le. Je vous le dis, je pense que le conseil sera d'accord. Gardez-le. Gardez-le. Mais si vous avez demandé de l'argent à un chrétien et que vous lui avez promis de le rembourser, s'il vous plaît, faites-le. Moi, je vous aiderai, s'il vous faut, à rédiger le courrier pour que ce soit le plus bon possible. On est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous enfoncer. Mais mes frères et sœurs, il faut qu'on arrive absolument à comprendre ce que Jésus dit. Un homme qui est prudent, qui entend et qui met en pratique, il creuse et il creuse profondément. C'est ce que j'essaie de vous aider à faire. Si vous ne le faites pas. Il y a plein de textes qui montrent que le ciel s'est ouvert ou que le ciel s'est fermé. Il y a bien une raison. En parlant de dette, vous savez, si vous ne m'arrêtez pas ce matin, si vous ne m'arrêtez pas, il va y avoir un problème. Dans le prophète Malachie, vous connaissez ce texte où les chrétiens ne vont pas bien du tout. Ils sont en colère contre Dieu. Bien sûr, on a l'impression qu'ils sont en colère contre le prophète. Ils ne sont pas en colère contre le prophète. Ils sont en colère contre Dieu. Vous connaissez ce fameux chapitre? Bien sûr qu'on n'ose pas en parler. Ça paraît tellement charnel, humain, intéressé. C'est spirituel. C'est par rapport à la dîme. Malachie, chapitre 3, verset 7. Regardez, mes frères et sœurs, c'est archi important. Vous allez me dire, c'est un problème, mais c'est un problème archi important. L'œuvre de Dieu, elle est bénie par l'argent. Mais Dieu, vous allez me dire, oui, Dieu pourrait se passer de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais Dieu utilise l'argent. Vous savez, hier, je vous donne ce témoignage pendant que vous cherchez le texte. Hier, il y a un frère qui m'écoute sur Internet, un frère handicapé, qui veut travailler. Écoutez bien, quand même. Frère qui a été touché par la grâce de Dieu, il veut travailler pour donner l'argent à l'église. Il a une pension. Il m'a dit, monsieur Gaud, j'ai entendu que vous formiez des ouvriers, j'ai entendu que résumez-moi, regardez bien, regardez comme il y a des gens qui s'intéressent. Résumez-moi votre dernière mission. Ah ben, tu sais, ça tombe bien, j'étais à Perpignan la semaine dernière. Et vous voyez comment Dieu conduit, et je pense que Dieu conduit pour que plusieurs ici comprennent. Parce que nous, on n'est pas dans un cas de figure comparable aux autres. Et il me dit, la semaine dernière, j'étais à Perpignan, il y a un pasteur qui est venu me voir dans la prédication. Il a une église du côté de Pia, enfin, je ne me rappelle plus exactement. Ils sont une centaine de chrétiens, ce sont tous des gitans qui n'ont pas d'argent, mais qui veulent écouter la parole de Dieu. Et aucun pasteur n'y va.
parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le déplacement, l'autoroute, l'hôtel. J'ai dit quoi ? J'ai dit, moi, quand je vais dire à l'église que je peux leur faire une mission, moi, je peux vous dire qu'on ira gratuitement faire cette mission. C'est vrai, monsieur Gau, il me dit, je vous envoie 500 euros pour la mission. Un homme qui a été opéré 29 fois, qui ne peut pas bouger, qui veut travailler pour donner de l'argent à l'église de Sainte-Agne. Malachie 3.7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Regardez cette bénédiction. Il y a toujours cette tendresse. Vous savez, tant que Jésus est assis sur le trône de la grâce, ça se produira, ça. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et regardez, et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Oui, les chrétiens qui, de suite qu'on leur fait un reproche, il y a des chrétiens, ils sont tellement spirituels, ils n'acceptent aucun reproche, tellement ils sont spirituels. Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous voyez ? C'est nier les reins. Les gens qui disent, oh, à quoi ça sert de prier ? À quoi ça sert de servir Dieu ? À quoi ça sert d'aller à l'église ? Eh bien, je peux vous dire, vous avez vu ce que Dieu en pense. Hein ? Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? En plus, ils prennent son nom en vain, vous voyez. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Regardez la réaction. On réagit quand on écoute Dieu. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Je vous ferai remarquer dans ce verset que Dieu n'écoute pas que la prière. Dieu écoute quand on parle. Quand on parle entre nous. Dieu n'écoute pas que la prière. Là, vous en avez la preuve. Et Dieu a exaucé, non pas une prière, mais Dieu a exaucé des propos qui ont été... qui ont été formés une fois qu'ils ont entendu la réprimande et l'invitation. L'Éternel fut attentif, il écouta, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour tous ceux qui craignent son nom et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Saignons les reins de notre entendement, où j'en suis au niveau de ce que Dieu me demande, ou ce que je dois faire pour Dieu. Le ciel se ferme lorsque je ne fais pas ce que Dieu me demande, à tous les niveaux. J'ai parlé des dettes, mais c'est vrai que ça m'a amené à ce sujet, par le Saint-Esprit, parce qu'il y a des chrétiens qui sont super légers avec cette affaire. Mes frères et sœurs, faites ce que Dieu vous demande. Faites-le. Saignez les reins de votre entendement. Vous allez me dire, ouais, c'est une loi de l'Ancien Testament. Je peux vous dire que le Nouveau Testament, c'est une autre dimension. Encore plus belle. Et moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, parce que je crains vraiment pour tous ces chrétiens qui n'acceptent plus un reproche, tous ces chrétiens qui font à leur façon, qui n'ont pas compris, voyez ce don spirituel que j'ai donné tout à l'heure par rapport à cette personne, un homme ou une femme ou plusieurs, voilà, qui sont là assis, nus au bord du chemin. Mais que c'est triste! Que c'est triste! Quelqu'un qui devrait être un vainqueur et amener la bénédiction sur les autres. Et si nous ne veillons pas, nous allons voir ce qui est en train de se passer dans plein de dénominations et plein d'églises. Les chrétiens vont tomber complètement dans l'apostasie. Dimanche dernier, j'ai mangé chez un pasteur, enfin un pasteur qui n'est plus pasteur. Il a fallu qu'il arrête, parce que sa femme est partie, elle l'a quitté pendant des mois, tellement cet homme était déséquilibré, il l'a reconnu. Il m'a dit, monsieur Gau, j'ai besoin qu'on fasse le point, je veux servir Dieu, mais voilà, j'ai planté ma vie, enfin bon, il m'a expliqué pendant tout le repas. Frères et sœurs, Dieu dit que ceux qui craignent l'Éternel, ils verront la différence. Et nous devrions vraiment nous arrêter sur tous ces textes, puisque la Bible parle du bonheur, la Bible parle du malheur, la Bible parle de la bénédiction, la Bible parle de la malédiction. Et ça vaut quand même la peine de s'arrêter. Un autre texte, un petit peu avant, dans le prophète Agée. Agée, chapitre 1er. 5 fois il est dit dans ce chapitre, dans ce livre, qui est très court d'ailleurs, puisqu'il ne fait que 2 chapitres, si je ne me trompe. Ce livre, 5 fois il est dit, considérez attentivement vos voies. Voilà, c'est un commandement. Ça pourrait n'être écrit qu'une fois, ça suffirait. Mais Dieu, dans sa immense bonté, le répète 5 fois. Considérez attentivement vos voies. Est-ce que c'est pas ça, cindre les reins de son entendement? Agée, c'est juste après Habacuc, Verset 7. Regardez, mes frères et sœurs. C'est sérieux, vous savez. C'est le salut de nos âmes, là, qui est... C'est pas une question de salut. C'est une question de se préparer à rencontrer Dieu et à ne pas perdre le salut. Parce que si vous êtes ici, j'espère que vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Agée 1, 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez reçu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Oui, c'est pas le diable. Nous, on met le diable partout, mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup d'épreuves que Dieu permet pour nous faire réfléchir. Pourquoi ? Voilà, Dieu pose la question. Pourquoi ? Il faut qu'on s'arrête, vous voyez. Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Les cieux fermés, parce qu'il y a le mépris de la maison de Dieu, le mépris de l'œuvre de Dieu. Regardez ce verset, c'est dans Jérémie 48, si je ne me trompe pas. Oui, 48, verset 10. C'est quand même des textes, vous voyez, quand il dit « Seigneur les reins de votre... » Comment je fais l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de ceux qui font les choses n'importe comment, légèrement? Jérémie 48, 10. C'est ça, cindre les reins. Je peux vous dire que si vous les notez les versets, si vous les méditez, nous ferons attention. Jérémie 48, verset 10. Vous y êtes? Regardez, c'est la même chose. C'est dit différemment, c'est plus sévère encore. Regardons, mes frères et sœurs. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dieu attendait qu'on fasse les choses avec cœur. Dieu attendait qu'on fasse les choses avec enthousiasme. Dieu attendait, il nous a donné sa vie, il nous a tout donné. Il nous a préparé une place dans le ciel. Il nous prépare des vêtements de fêlés. Enfin, vous savez tout ce qu'il nous prépare. Et Dieu attend qu'on fasse les choses avec cœur. Et quand moi je lis, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il y a des gens, ils font l'œuvre de Dieu, mais ils font rien d'ailleurs. Là, c'est pire. Il y a des gens qui font avec négligence, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Puisque Jésus parle de ces chrétiens qui connaîtront les pleurs et les grincements dedans, parce qu'ils ont enfoui le talent. Oh, moi j'en ai marre, je suis dégoûté, j'en peux plus, et lui, et elle. Et alors si Jésus, quand tout le monde l'a abandonné, il aurait pu se retourner et dire, comment? Tous m'ont abandonné, eh bien je remonte au ciel. Eh bien je vous dis, on allait tous en enfer. Et la première parole qu'il a prononcée sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur ». Pas parce qu'on lui a marché sur l'orteil, parce qu'on l'a crucifié. Et la première parole qu'il prononce, il demande pas, il pardonne pas lui. Lui, il l'a déjà fait. La preuve, c'est qu'il dit « Père, pardonne-leur ». Et nous ferions l'œuvre de Dieu n'importe comment, mes frères et sœurs. Bien sûr que c'est bien, moi je reproche pas ceux qui bichonnent leur maison. Moi j'aime que mon bureau soit nickel, que ma maison soit belle, j'apprécie d'avoir une jolie maison, etc. Il n'y a pas de mal à entretenir sa maison et avoir un bel intérieur, etc. Béni soit le Seigneur. Et ne faisons pas dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites. Mais l'œuvre de Dieu... Vous savez, quand nous étions à Grouilly, nous avions une petite église, elle contenait 120 places. Vous voyez, là, il y a 250 chaises à peu près. Vous voyez la taille, elle était... Et on était une vingtaine. On dit, écoutez bien, je vous dis ça parce que ça fait, c'est pathétique. Nous avions une église, on était une vingtaine au culte, et Dieu a béni. Et au bout de 3 ans, quand l'église était remplie, il y a une sœur qui est venue nous voir. Vous savez ce qu'elle nous a dit ? Vous savez, je regrette ce temps où on n'était que 20. On passait du temps ensemble, on faisait des agapes ensemble, on mangeait ensemble. C'est vrai que quand il n'y avait que 20 chrétiens, moi je pouvais aller manger chez les chrétiens plus souvent. J'ai dit, comment ça, vous regrettez ce temps où on n'était que 20 ? Oui. Vous voyez les gens, quand même, le salut d'une âme, je ne sais pas moi. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas. Mais je sais que si vous avez besoin d'entendre ça, vous devriez faire attention. C'est écrit. Ce n'est pas écrit pour nous ennuyer. C'est vrai. Vous avez vu comment du temps d'Habacuc, les chrétiens, ils n'ont pas changé. Oui, les Hébreux, ils sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Parce que vous croyez qu'on aurait fait mieux que les Hébreux. Ce sont nos frères. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mes frères et sœurs, Dieu nous a sauvés. Pourquoi Dieu ne nous a pas repris? Pourquoi Dieu ne m'a pas repris quand j'ai fait l'AVC? Dieu me l'a montré. Pourquoi? Je sais pourquoi maintenant. Ce n'est pas que pour prêcher à l'église. Je vous le dis d'ici. C'est pour former des pasteurs. Et établir des pasteurs. Voilà pourquoi Dieu m'a laissé ici, sur la terre. Eh bien, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire consciencieusement, sérieusement. Et depuis mon AVC, je crois qu'il y a tous les jours, depuis que je suis remis, tous les jours des pasteurs qui m'appellent. J'ai compris pourquoi. Et je sais pourquoi. Mais je vais le faire sérieusement. Parce que je sais que si on contribue à la restauration d'un pasteur, il y a de fortes chances qu'on contribue à la restauration d'une église. Mais on devrait être épris de ces choses. On devrait dire, mais Seigneur, que M. Go puisse faire ce qu'il demande. Vous n'allez pas dire, mais il faut prier. Les pasteurs, vous devez prier. Oui, le prédicateur doit prier. Et moi, j'aime ça en plus. Il doit prier. Mais il faut prier pour le prédicateur. Qui a prié? Non, ne répondez pas. Je n'ai pas envie de faire un autre infarctus. Qui a prié pour moi ce matin? Qui s'est levé et a dit, Seigneur, il faut que tu nous parles. Il faut que tu nous parles. Il y a des chrétiens qui ne vont pas bien. Il y a des chrétiens qui se perdent. Ça vous fait rire, vous, quand vous apprenez qu'il y a des pasteurs qui divorcent? Ça vous fait rire quand vous avez des pasteurs qui abandonnent Dieu? Il y a un pasteur qui l'autre jour me téléphone, il me dit, tu sais pas, on se connaît bien, tu sais pas, j'ai croisé un pasteur qui a abandonné le ministère. Je l'ai trouvé à Leclerc, à Intermarché, je l'ai trouvé, la clope à la main, avec sa nouvelle copine. Et il m'a dit, ouais, Dieu a rien fait pour moi. Dieu a rien fait pour nous. Sérieusement. Dieu n'a rien fait pour nous. Quelqu'un qui en est là, c'est qu'il y a un gros problème. Mais Dieu l'aime, ce frère. Je ne sais même pas qui c'est, je n'ai pas voulu savoir qui c'était. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il revienne à Dieu. Et que Dieu le bénisse. Mais comment le fera-t-il si les chrétiens ne savent même pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais, ce qui provoque le bonheur et ce qui provoque le malheur? On devrait savoir. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Combien de chrétiens sont sans s'en rendre compte dans la malédiction? Alors le mot, il ne vous plaît pas, tant pis. Mais qui sont malheureux. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont tout le temps en train de se confier dans les gens. À la place de se confier dans ce Dieu qui est capable, avec un mot d'intervenir. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Il est comme un misérable dans le désert. Et les chrétiens, ils continuent. Et t'as vu celui-ci, et t'as vu ça, et t'as... Mes frères et sœurs, confiez-vous dans le Seigneur. Confiez-vous de tout votre cœur. Il est tout puissant. Vous le croyez, ça? Il change le mal en bien. Il est tout puissant, mes frères et sœurs. Il est tout puissant. Comment voulez-vous que je vous le dise? Il peut tout. Il sait tout. Et il sait comment on va réagir à cette prédication. Il sait si vous allez endurcir votre cœur parce que vous allez, oui, c'est vrai, c'est clair, il est ferme ce matin. Mais c'est pas une question d'être ferme. C'est une question que nous comprenions bien ce verset. Saignez les reins de votre entendement. Seigneur, tu me parles au travers d'Habacuc. Tu me parles au travers d'Agée. Tu me parles au travers de Malachie. Tu me parles au travers du psaume 34 qui résumait les cantiques que Michaël a fait chanter. Seigneur, mais je vais le relire ce psaume 34. Je vais le relire. Je vais le lire et le méditer. Peut-être que Dieu utilise le pasteur Go ce matin et le répète plusieurs fois, pour que je m'y applique. Il y a des hommes qui creusent et qui creusent profondément. Ce sont eux qui mettront en pratique. Ce sont eux qui seront sérieux. Ce sont eux qui diront, oui, je vais faire l'œuvre de Dieu avec beaucoup de cœur. Faites ce que vous avez à faire. Si c'est le ménage, faites-le avec cœur. Il y a des gens qui, peut-être pas ici, mais je le sais, ils se sont retrouvés seuls au ménage, ils ont pris le balai, ils ont envoyé balader. Ben si c'est ça, si c'est pour me retrouver tout seul, ben moi je rentre à la maison.
Qu'est-ce que vous en pensez de la réaction? Vous ne croyez pas que Dieu peut permettre qu'on se retrouve seul à faire le ménage? Nous, on l'a vécu ça avec ma femme, des années. Quand on faisait le ménage, on dit, tu te rappelles, hein? On se retrouvait seul. On était 7-8, on se retrouvait seul. La première fois, j'ai dit à ma femme, t'as vu? Et la deuxième fois, elle m'a dit, t'as rien vu, c'est pas la peine. Faisons-le avec joie. Et on chantait tout ce que vous faites. Faites-le de mon cœur. Qui sait, je dis ça en toute humilité, franchement, qui sait si je serais là aujourd'hui, si j'avais tout envoyé balader, et si j'avais dit, ouais, dans cette église, les gens, ils sont pas sérieux. Mais c'est leur problème. Que t'importe les autres? Toi, suis-moi. Mais comment nous pourrons le faire si on n'est pas sérieux avec la première exhortation que Dieu, dans sa bonté, nous adresse par le biais de l'apôtre Pierre? Saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Quand je lis, je devrais être sérieux. Est-ce que vous êtes sérieux avec le Saint-Livre, frères et sœurs? Moi, quand j'entends ce que j'entends, je me souviens de Nathanaël. Il avait été, quand il était stagiaire ici, je lui disais, tu vois cette personne, dans 3 mois, elle aura rétrogradé. Et puis, je me suis dit, comment vous le savez? Si elle ne change pas, dans 3 mois, elle aura rétrogradé. Vous savez, une plante, quand on ne l'arrose plus, il y a des signes qui ne trompent pas. Et nous devrions quand même avoir assez d'honnêteté pour nous exhorter les uns les autres et dire, fais attention. Fais attention. Applique-toi. Mets-toi à genoux. Comment ça se fait qu'on n'est pas prêt à accepter les conseils? Comment ça se fait? Alors qu'est-ce que je fais? Je continue? C'est pas la peine. Soyez sobre, le deuxième conseil. Soyez sobre. Vous voyez, ça c'est un conseil. Ça concerne nos paroles. Sobre, qu'est-ce qu'il dit Paul? Soyez sobre en toutes choses. En toutes choses. C'est pas que l'alcool. C'est les paroles. Soyez sobre en toutes choses. Il est dit dans l'épître de Pierre, tiens sobre, je vais prendre ma concordance. Qu'est-ce qu'il est dit? Soyez sobre, veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Le diable, il est patient. Vous connaissez Gisby Benod? Vous connaissez? C'est pas un de vos voisins? Gisby Benod, c'est un des fils de Goliath. Vous connaissez dans Samuel? Vous savez ce que ça veut dire, Gisby Benod? Oui. Il est patient. Et il a attendu une chose, longtemps, longtemps, que David soit fatigué pour lui couper la tête. Et heureusement, David avait vieilli, il avait certainement plus l'art de manier la fronde comme 30 ans avant. Et Jonathan lui a dit, je m'en occupe. Et Jonathan s'est occupé comme il fallait de Gisby Benod. Mes frères et sœurs, il est patient l'ennemi. Il rôde comme un lion rugissant. Et je peux vous dire qu'il sait ce qui nous est préjudiciable. Il sait si mon problème, c'est l'argent, l'orgueil, la sexualité. Je ne sais rien encore, tous ces trucs qui peuvent nous faire peur. Mes frères et sœurs, nous devrions régler ces choses. Soyez sobres. Cette affaire, elle me perturbe. J'arrête. Je vais terminer quand même avec un verset. Parce que je l'ai à cœur. J'ai plein de versets à cœur. Mais là, je l'ai vraiment plus qu'à cœur. On poursuivra cette étude. On la poursuivra, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que s'il en est ainsi, nos prières seront exaucées. Vous n'avez pas envie que vos prières soient exaucées? En plus, c'est facile, franchement. Regardez dans Jean, regardez bien ce verset, quand même, j'aimerais qu'on le médite, on le poursuivra mardi, Dieu voulant, par rapport aux armes spirituelles, aux combats, etc. Mais regardez quand même, 1 Jean chapitre 5, verset 18, franchement, regardez-le ce verset,
Hier soir, j'allais me coucher, je priais, et il s'est imposé à mon esprit, je pense que c'est probable que ce soit pour la conclusion de ce matin. 1 Jean chapitre 5, verset 10, regardez comme il est profond et beau et intéressant. 1 Jean 5, 18, nous savons, regardez bien, que quiconque est né de Dieu, alors ça c'est déjà notre problème qu'on ne va pas aborder ce matin. Est-ce que tous les chrétiens sont nés de nouveau ? Bon, on ne répond pas. Hein. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il se garde lui-même. Et regardez la conséquence quand même. Quand même, mes frères et sœurs, et le malin ne le touche pas. Alors bien sûr que quand il est dit que ce gars ne pratique pas le péché, juste avant il est dit que quelqu'un peut pécher, bien sûr, que celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est pareil. Mais il y a une différence entre commettre un péché involontaire, je l'ai souvent dit ça, vous êtes d'accord, entre commettre un péché involontairement, ça peut arriver, et demander de suite pardon à Dieu et à la personne. Et puis vivre volontairement dans le péché. Quelqu'un qui vit dans la méchanceté, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui vit dans la méchanceté, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Celui qui n'aime pas son frère, c'est comment écrit ? Comment ? Non, celui qui n'aime pas son frère, c'est écrit aussi, mais pas pareil. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Ça veut dire qu'on tue les gens lorsqu'on ne les aime pas. Seigneur, donne-moi de l'amour. Je vais me tenir dans ta... Parce que vous croyez qu'il y a des gens qui sont meilleurs que les autres. Seigneur, j'ai du... Mais soyez cette honnêteté. Tu veux que la vérité... Relisez le psaume 51. Vous allez... Je comprends pourquoi Dieu a restauré David qui méritait la lapidation. Je comprends pourquoi Dieu l'a restauré. Parce qu'il ne faisait pas du cinéma. Quand il priait. Parce que du cinéma, quand on prie, on peut en faire. Seigneur, purifie-moi. J'ai du mal à aimer. Là où je bosse, j'ai du mal à aimer les gens. Mais tenez-vous devant Dieu. Est-ce que... Demandez. Demandez et vous recevrez. Ouais, je demande, je ne reçois pas. Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Ne vous mettez pas Dieu à dos. Vous savez, quand Dieu dit, mais j'ai un procès avec les habitants de ce pays. Mais je comprends. Quand je vois comment on parle à Dieu, je comprends que Dieu puisse se dire, j'ai un procès. Un procès, il va falloir le régler. Je pense qu'il vaudrait mieux être d'accord avec Dieu. Celui qui est né de Dieu, celui vraiment qui obéit à Dieu... Il va être très, très carré avec le péché. Vous vous rendez compte ? Dieu le garde, il se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Moi, je suis parti au lit, j'avais préparé ma prédication, je vais la commencer quand même. Ça ne vous encourage pas ? Le malin ne peut pas toucher les gens qui obéissent. Celui qui est né de Dieu, il se garde. Et il devrait savoir, enfin écoutez quand même. Moi je m'appliquerai à le faire, je le ferai consciencieusement, joyeusement, sérieusement. Le temps que Dieu me laissera ici, si c'est jusqu'à ma mort, je le ferai consciencieusement. Je veux pouvoir dire, à la fin de mon ministère, je suis pur du sang de vous tous. Et que quelqu'un n'ait pas le toupet de dire, mais ça c'est une doctrine de l'Ancien Testament. Vous lirez Acte 20 et vous verrez si Paul ne dit pas la même chose. Parce que mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui scinde les reins de son entendement et qui dit, je vais faire attention aux promesses, aux commandements, aux reproches, aux paroles, qu'elles soient dures ou qu'elles soient sévères, mais ça m'est égal. Je vais faire l'œuvre de Dieu avec cœur. Je veux le faire avec cœur. Tu m'appelles à ça ? Je vous l'ai dit l'autre jour, même si c'est visiter qu'une mémé par semaine, eh bien je le ferai avec cœur, même si la mémé elle vous répète les mêmes choses toutes les semaines. Ça fait rien, j'irai la voir. Si tu me le demandes, eh bien j'irai la voir. Mais commençons à faire ce que Dieu nous demande. Arrêtez de fabuler. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Oui, moi je suis d'accord. Mais commencez à faire les petites. Peut-être que ça tiendrait debout. Alors commençons à faire les petites choses. C'est pas possible que Dieu ne vous les montre pas. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Alors on va répondre à cette prédication. Vous allez répondre, pas moi, moi je n'ai pas besoin de vos réponses. Moi je peux m'être trompé, peut-être. Mais si Dieu vous a parlé, ça vaudrait la peine que vous lui répondiez, pas comme les chrétiens du temps de Malachie. Comme Dieu aimerait. Est-ce qu'on peut se recueillir, mais vraiment solennellement? Là, on n'est pas dans le temporel. On n'est pas dans les élections, là. Je suis sérieux, mes frères et sœurs. On est dans l'éternité. C'est pour notre éternité. Nos récompenses, notre place, etc., est liée à tout ça. C'est pas pour rien dire que Pierre a écrit « Saignez les reins de votre entendement ». C'est pas pour rien que Jésus a dit « Creuse, il creuse profondément ». On le voit avec trois versets, on comprend mieux maintenant. Qui c'est qui est malheureux dans ce lieu? Malheureux parce qu'il fait les choses de Dieu à l'arraché. Il est méprisant envers la dîme, il y a des sous dans l'église. Mais oui, heureusement, parce que si on a un projet pour gagner des âmes, il vaudrait mieux qu'on ait thésaurisé. Qu'est-ce que c'est ces propos? Quand tu vas passer devant Dieu, tu ne voudrais pas entendre « Entre, bon et fidèle serviteur ». Entre ma fille bénie. Mes sœurs, vous n'avez pas envie d'entendre ça? Ma fille, entre dans la joie de ton maître. Tu as fait l'œuvre de Dieu avec amour. Quand tu balayais, je te voyais. Quand tu donnais ta dîme, j'ai vu combien tu étais heureuse. Eh oui, tout ça, Dieu le voit. Saignons les reins de notre entendement. Il creuse, oui, il creuse. Mais il ne fait pas que creuser. Il creuse profondément. C'est avec cœur, Seigneur, que nous voulons répondre à ta parole. C'est avec cœur. Un cœur reconnaissant de ce que tu daignes encore nous parler. Et nous voudrions qu'au sein de cette assemblée, tu puisses ne pas être à la porte, mais dans ce lieu, et que tu puisses passer dans les rangs et faire grâce. Non seulement sauver les pécheurs, restaurer les fils prodigues, mais que tous les chrétiens soient édifiés et que nous ayons tous les reins saints. Que nos pensées, nos sentiments, notre intelligence, notre cœur soient étreints de chacun de tes commandements, qui ne sont que des bénédictions. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment où on peut se recueillir. Donne-nous la grâce de voir et de vérifier tout à l'heure, demain, ce soir, où nous en sommes de notre piété. Jamais nous ne te remercierons assez de nous avoir donné la Bible dans notre langue. Jamais nous ne te remercierons assez d'avoir institué la Sainte Cène. Jamais nous ne te remercierons assez pour la communion fraternelle. Jamais. Et en attendant de te glorifier de vive voix, nous voulons nous appliquer à travailler à notre salut, Seigneur. Vraiment. Non seulement ici, mais dans toutes les églises de ce pays, nous voudrions voir cette piété pour que les pécheurs, les notables, les clochards, les prostituées, les athées, tous les hommes, les présidentiables te connaissent. Tous ces gens, tous ces musulmans, tous ces hindous, nous voudrions qu'ils te connaissent par une église qui te glorifiera. Que ton nom soit béni, Seigneur.